et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'affiche faite par LFI sur Cyril Hanouna. Ça suscite pas mal de polémiques. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas forcément l'habitude de commenter des controverses de cette nature. On n'entre pas dans ce degré d'excitation médiatique, mais il est bon quand même de savoir ce que cela dit du régime dans lequel nous vivons. J'entends du régime de communication, la manière dont on communique, dont on s'exprime, et puis de ce que cela dit aussi de l'évolution des idées, des clichés aussi par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres affiches par le passé, à d'autres époques, des époques antérieures qui ont aussi marqué les esprits. Donc Cyril Hanouna, si vous avez vu l'affiche, est-ce qu'il ressemble à d'autres affiches qui ont pu être mises par des régimes, faites par des régimes qui aujourd'hui sont fortement discrédités, Antoine Fenech ?
Oui, malheureusement, cette affiche nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, du régime nazi. On se souvient dans les années 30, les années 40, ce film propagande contre les juifs, l'éternel juif, qui avait été, c'était un film que les nazis avaient mis en place pour dénoncer les juifs comme étant la population nocive pour l'Allemagne, etc. Et cette affiche, malheureusement, cette affiche de la France insoumise ressemble vraiment énormément à ce film. Donc on voit Cyril Hanouna avec les traits du visage,
crispé et méchant.
Exactement. Et donc ça révèle quoi en fait cette affaire ? Ça révèle soit un manque de culture politique grave des dirigeants de la France insoumise au minimum, ou alors quelque chose qui est délibéré. Moi je pense plus une affiche qui a délibérément été voulue. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que, vous savez, l'intelligence artificielle, donc il y a Grok, ChatGPT, etc., vous ne pouvez pas simplement envoyer... en fait, il faut une série d'actions, une série de demandes pour pouvoir arriver à un tel résultat. Il faut demander à cette interface numérique de donner cette personne-là, donc par exemple Cyril Hanouna, plus des traits, etc. Donc, et à la fin, on arrive à une comparaison odieuse de l'histoire.
Il faut que la requête soit complète et précise pour arriver à quelque chose.
Oui, tout à fait. Et j'utilise aussi de temps en temps, comme tout le monde, l'intelligence artificielle. Et je peux vous dire qu'il faut vraiment, pour arriver à un tel résultat, il faut plusieurs demandes, 3-4 demandes, etc. Mais moi, en fait, ce qui me choque aussi dans cette histoire, c'est que il n'y a pas eu d'excuse de Jean-Luc Mélenchon. Imaginons, dans un cas particulier, si c'était pas voulu, hein, moi je n'y crois pas, mais imaginons que c'était pas voulu, au moins excusez-vous de cette affiche qui est honteuse. On a vu Manuel Bompard sur le Grand Rendez-vous votre antenne, confrère, disait que ce visuel n'aurait pas dû être publié, et le soir même, Jean-Luc Mélenchon, sur une autre antenne, attaquait un journaliste pour dénoncer, en fait, on a l'impression que dès qu'il est
assez
en difficulté, voilà. Non, mais c'est pour moi, j'ai trouvé ça un peu scandaleux de jamais se remettre en question, et surtout sur des affaires aussi sensibles que des affaires de racisme. Quand on connaît Jean-Luc Mélenchon, qu'il prône la créolisation heureuse, hein, c'est ce qu'il dit. Il faut que on peut pas choisir une créolisation pour tout le monde et après faire des exceptions sur une catégorie de la population.
Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la propagande des réseaux d'extrême droite et affirmé que son mouvement n'a rien à voir avec le racisme, Gauthier Vaillant.
Alors moi je fais une lecture un peu différente parce que de vous, Antoine, parce que j'ai toujours tendance à privilégier l'hypothèse de l'incompétence sur celle de la malivolence, on va dire. Et donc, sur la genèse, on va dire l'intention qui a présidé à la réalisation de ce visuel, moi je penche clairement pour effectivement le déficit de culture politique ou l'absence.
Donc pas délibéré pour vous.
Non, pas délibéré. Mais en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire si on dit que c'est délibéré ? Est-ce qu'on va vraiment dire, on peut faire toutes les critiques qu'on veut aux gens de la France insoumise, mais est-ce que on va se dire dans ce studio que la France insoumise, il y a des communicants qui font délibérément des visuels calqués sur de la propagande nazie ? ça n'a aucun sens. Quel serait l'intérêt, on va dire, le gain potentiel de quelque chose d'aussi, je sais pas comment dire, énorme, scandaleux, outrancier, voilà. Donc je ne crois pas qu'on puisse sérieusement dire, ils ont fait exprès de reproduire des affiches nazies avec la tête de Cyril Hanouna à la place. Ça me paraît, voilà, ça me paraît pas, voilà, ça me paraît pas envisageable. Enfin, ça me paraît pas sérieux.
Un mauvais procès.
Donc je pense, mais en fait, ça veut pas dire que, attention, ça veut pas dire qu'il y a pas de faute. L'incompétence ou le déficit de culture ou le fait de ne pas avoir mesuré la portée, c'est déjà très grave, hein. Mais ça n'est pas la même chose que d'avoir délibérément calqué sa communication sur celle de l'Allemagne nazie. Je pense que c'est différent.
Gauthier, aussi, il y a un élément aussi qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Il y a certaines personnes, évidemment, dans tous les partis, mais il y a certaines personnes au sein de la France insoumise qui ont des propos qui peuvent être interprétés assez régulièrement comme étant antisémistes ou antisionistes au minimum. On se souvient de Rima Hassan qui dit que le Hamas est une organisation respectable, internationale, avec qui il faut dialoguer. Donc il y a des choses comme ça qui ne passent pas. Je ne dis pas qu'elle est antisémite, bien sûr, ou antisioniste. Quoique antisioniste, on peut quand même se poser la question.
Oui, ça je pense qu'on peut le dire. Hein.
Elle assumerait volontiers cette étiquette, je pense, non ?
Oui, j'ai l'impression, avec ses propos sur les antennes. Mais finalement, on se rend compte d'une chose. On se rend compte que aujourd'hui, à la France Insoumise, vous avez une partie qui parfois peut avoir des tendances douteuses sur l'antisionisme et voire l'antisémitisme. Donc il faut qu'il y ait une position claire qui soit établie par Jean-Luc Mélenchon et qu'il s'excuse de cette affiche en disant on n'a pas voulu le faire ou nous sommes désolés, on ne voulait pas faire ce parallèle-là, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Je suis d'accord avec vous, et moi je pense comme vous, qu'il y a un problème à la France insoumise, au moins dans les mots, sinon dans les idées, sur effectivement la question de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Je suis absolument d'accord avec ça. Ça me paraît assez incontestable. Il y a effectivement des personnalités, des déclarations très problématiques, et il y a un problème de clarté, il y a une ambiguïté dont ce parti n'arrive pas à sortir à ce sujet. Ce qu'il souhaiterait en sortir, c'est même une question. Néanmoins, sur ça n'interdit pas la nuance et le cas par cas, enfin, je veux dire, dans l'analyse qu'on fait des différentes polémiques, voilà, qui font souvent notre vie politique. Et sur ce cas d'espèce de cette histoire d'affiche de Cyril Hanouna, je pense que il y a un problème dans le résultat, mais qui est un autre problème que celui de l'intention initiale. Je pense qu'il y a un problème de culture. Je pense que voilà. Et en revanche, une fois qu'on a dit ça, je pense moi aussi que l'incapacité des dirigeants de ce parti à présenter des excuses, à juste reconnaître qu'ils se sont plantés, qu'ils ont fait de très mauvais goût à tout le moins, est effectivement caractéristique, hein, je veux dire, c'est systématique. La France insoumise, je pense que c'est une stratégie. On ne s'excuse de rien parce que ça serait une concession, voilà, et on renvoie systématiquement les critiques qui sont adressées au parti à la responsabilité de l'extrême droite. Là où on va quand même dans ce cas-là encore un cran plus loin, c'est le député, je crois, Paul Vanier, député LFI, qui a expliqué qu'en gros cette image ayant été générée par Grok, donc l'intelligence artificielle de Twitter, c'était de la faute d'Elon Musk, en gros, et que l'idéologie d'extrême droite d'Elon Musk infusait dans l'intelligence artificielle de X, et que du coup c'était ça qui avait mené à ce résultat. Donc bon, il y a effectivement une
donc
une
ils capacité. Ont été piégés par Musk, en fait.
Mais c'est vrai qu'ils ont une capacité à aller, ils vont très très loin dans la mauvaise foi pour surtout ne pas reconnaître une erreur, et c'est peut-être ça finalement effectivement le plus problématique et qui les honore pas, parce qu'après tout, voilà, on peut faire une erreur, des visuels un peu pour se moquer, pour tourner en dérision, pour faire peur avec ses adversaires politiques. On vit une ère de communication politique, vous l'avez dit au début, qui n'est pas toujours à la gloire du débat d'idées. Bon, on peut en faire une, on peut se tromper, on peut être allé trop vite, on peut ne pas avoir mesuré la portée de voilà. Après, critiquer Cyril Hanouna, c'est permis quand même.
Oui, mais alors moi, donc, je me posais la question. C'est aussi ça, le Gauthier Vaillant et Antoine Fenech, je me posais la question de savoir. Cyril Hanouna, à ma connaissance, n'est pas candidat d'un parti politique, ne représente pas de parti politique, c'est un animateur de télévision. Pourquoi un parti politique? Je ne sais pas, d'ailleurs, il faudrait regarder dans les archives du monde politique si c'est la première fois qu'on fait une affiche sur un personnage qui n'est pas politique. En soi, c'est un animateur de télé. Pourquoi il devait mobiliser, son image devait mobiliser pour la manif du 22 mars contre le racisme? C'est ça l'objet. Mais ce n'est pas un politique.
Ah non, pas du tout. C'est pas un homme politique, même si évidemment on a entendu dans l'actualité que potentiellement il pourrait aller, non, mais pas du tout. Lui, il a son émission de divertissement, voilà, tous les jours, qu'on a en plus censuré. Ça, c'est un autre sujet sur la TNT. Lui n'aspire pas à faire de la politique. Il aspire simplement à faire remonter les sujets qui préoccupent les Français, qui sont moins, un petit peu moins évoqués sur le service public, sur d'autres antennes. Il a son auditoire. Il fait venir ses chroniqueurs, les sujets sont traités de manière journalistique. Donc,
non, là, je pense qu'il faut rester raisonnable.
Moi, c'est ce que je pense sincèrement. Après, la comparaison de Cyril Hanouna, qui est lui-même de confession juive à cette affiche, pour moi, est intolérable. Mais ça révèle quoi chez la France Insoumise? Ça révèle aussi que la France Insoumise, c'est aussi un parti qui aime faire du buzz, des tweets, des affiches polémiques, des déclarations polémique. Et pourquoi ils font ça aujourd'hui, la France Insoumise? Parce qu'ils se retrouvent dans une situation un petit peu délicate. Ils ont moins de députés qu'avant. Ils se retrouvent... on a vu Louis Boyard hier, qui est lâché par ses anciens colistiers à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Ils se retrouvent un petit peu esselés, même à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste aujourd'hui, la France Insoumise? Il leur reste simplement leur stratégie de faire du buzz, etc. Parce que politiquement, ils sont dans une impasse actuellement.
Alors qu'objectivement, Cyril Hanouna a fait beaucoup de publicité à Louis Boyard ou à Raquel Garrido. Donc, on peut pas dire, il y a presque un jeu, tu me tiens, je te tiens. Et finalement, je dois beaucoup de ma notoriété à ce type d'émission de divertissement. Après, est-ce que c'est journalistique ou pas, comme dit Antoine Fenech? Qu'est-ce que vous en pensez, Gauthier Vaillant?
Alors, déjà, sur le fait de mêler, on va dire, un journaliste ou une personnalité médiatique de manière générale au débat politique, je pense que c'est absolument pas neuf, qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que aujourd'hui la gauche critique un animateur qui est notoirement de droite et qui promeut des idées de droite radicale ou d'extrême droite dans ses émissions. Je pense que la droite et l'extrême droite n'ont pas attendu aujourd'hui pour se plaindre, par exemple, qu'il y avait trop de journalistes de gauche, que telle ou telle personnalité était orientée. Voilà. Donc en fait, c'est un élément du débat qui n'est absolument pas neuf, que des partis politiques, des personnalités politiques prennent à partie des personnalités médiatiques pour leur reprocher une orientation politique, voilà, ou d'être des adversaires politiques un peu déguisés en journalistes, etc. C'est absolument pas neuf. Donc ça, déjà, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Maintenant, sur Cyril Hanouna, je peux juste dire vraiment un désaccord profond sur le fait que on puisse dire que il est dans ses émissions sont des émissions de divertissement dans lesquelles les sujets sont traités de manière neutre et journalistique. Cyril Hanouna, son émission a été condamnée plus de 30 fois par l'Arcom pour un déficit notamment de pluralité des opinions. Il a accumulé plus de 7 millions d'euros d'amende, et donc il y a quand même des instances de contrôle dont moi je ne pense pas, et je n'ai pas envie de laisser dire qu'elles sont politiquement orientées. Cyril Hanouna est soumis aux mêmes règles que tout le monde. D'autres émissions sont sanctionnées. Aucune n'a été dans de telles proportions. Donc je pense qu'il faut juste rappeler, si on veut faire le bilan ou le portrait de l'activité de Cyril Hanouna dans le paysage médiatique, il faut aussi rappeler cette réalité-là. Voilà, c'est des faits, les condamnations dont il a fait l'objet. Et moi, je pense que... c'est pour ça que je disais, on a le droit de critiquer Cyril Hanouna. C'est-à-dire qu'effectivement, l'affaire de l'affiche est une chose. On est tous d'accord sur le caractère gravement problématique de ce visuel. Maintenant, sur est-ce que la France Insoumise a le droit de critiquer Cyril Hanouna ou un autre animateur auquel elle reproche de pousser des idées, d'être un adversaire en fait idéologique, quand bien même il s'affronterait pas dans les urnes, la réponse est oui.
Antoine Fenech, est-ce que ça ne renforce pas l'image de Cyril Hanouna de se faire ainsi mettre en boîte un peu par un parti politique comme LFI? Finalement, qu'est-ce qu'il a à perdre dans cette histoire? Pas grand-chose?
Moi, j'ai pas l'impression qu'il a à perdre grand-chose. Il a dit qu'il porterait plainte, ce qui est logique. Évidemment, lui, ça fait un peu d'actu, mais je pense pas que ce soit quelque chose qu'il vive positivement, puisqu'il il a dit lui-même hier que, personnellement, il n'était pas tellement atteint, parce qu'à mon avis, il a l'habitude, malheureusement, d'attaques envers sa confession de juive, mais c'était surtout toute la communauté juive de France qui était touchée par ces attaques-là. À travers lui, c'était tous les juifs de France qui étaient attaqués, en tout cas c'est ce qu'il disait. Donc personnellement, je pense pas qu'il soit super atteint, même si évidemment c'est pas réjouissant de voir ça le matin, une affiche pareille. Mais c'est surtout, voilà, encore une fois, pour les personnes de confession juive dans notre pays, de voir des parallèles pareils, c'est vraiment pas du tout agréable, hein, j'ai envie de dire aujourd'hui.
Antoine Fenech, Gauthier Vaillant, on va passer à notre troisième sujet, les retraites. Les retraités sont le premier parti en France. Il y a un conclave en ce moment. Alors, quand on dit premier parti en France, il faudrait justement détailler ce que je voulais soumettre à votre sagacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vieillissement de la population, mécaniquement, eh bien, place beaucoup de rentiers ou de gens qui touchent des retraites en position de dicter au pouvoir politique, ne serait-ce que par leur mobilisation dans les urnes, de dicter ce qu'elles pensent et ce qu'elles veulent. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette réalité-là, ce décalage entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités, et le fait que la balance penche toujours plus vers les retraités mécaniquement, est-ce que cela ne joue pas, ne brouille pas l'exercice du pouvoir et de la politique en France? Gauthier Vaillant.
Eh bien, peut-être juste rappeler quelques chiffres pour étayer votre propos d'introduction. En 2022, à la présidentielle, les plus de 65 ans, enfin les retraités, représentaient un cinquième du corps électoral et un quart des votes exprimés. Les plus de 65 ans ont participé au premier tour à hauteur de 80%. Les 18-24 ans, autour de 65%. Donc, les retraités représentent une part très importante des électeurs qui se déplacent aux urnes. Les retraités ont des préoccupations qui leur sont propres et qui les distinguent souvent des autres classes d'âge. C'est-à-dire qu'ils ont un souci de stabilité. Donc, ils n'aiment pas les votes radicaux, par exemple, parce qu'ils veulent la stabilité, la continuité. Ils ont un souci d'ordre et de sécurité qui est important. Ils ont le souci presque paradoxal de la préservation de l'équilibre du système et notamment des retraites. Donc, ils sont très favorables à des réformes des retraites, à un allongement de la durée de cotisation, puisque pour eux, de toute façon, vous savez, ces fameux syndromes « après moi, fermez la porte ». Donc, eux, de toute façon, sont déjà sauvés. Ils sont moins préoccupés par la question écologique, par exemple, que les plus jeunes. Donc, en fait, c'est une catégorie de la population qui a, des préoccupations électorales, voilà, qui les distinguent, et qui se traduit concrètement par le fait qu'en 2022, 40% d'entre eux ont voté dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Très, très loin devant, je pense, Marine Le Pen, qui avait dû faire 18%, et les autres, encore loin derrière. Donc, évidemment...
Ce sont les piliers du système, en fait.
Évidemment, hein, ça incline, ça ne peut qu'orienter, voilà, aujourd'hui, les retraités, c'est un électorat qu'il est très dangereux de se mettre à dos. Et donc, on le voit concrètement, hein, dans les chiffres. Regardez les augmentations successives des retraites complémentaires. En 2023, 4,9%, 2024, 1,6%, 2025, 2,2%. Qui sont les salariés en France qui peuvent dire qu'ils ont été augmentés de 9 à 10% de leur salaire depuis 2023 ? Dans un contexte inflationniste. Voilà. Donc aujourd'hui, les retraités sont effectivement protégés. Emmanuel Macron, de longue date, a identifié que c'était son électorat, on va dire, son cœur de cible. Et oui, bien sûr, beaucoup de choses sont faites pour, on va dire, les protéger.
Antoine Fenech.
Je vous rejoins la France est en train de vieillir. Nous avons un pays, et tant mieux, ça veut dire qu'on a des meilleures conditions de vieillissement. Pour vous donner juste des chiffres, hein, ça va parler à tout le monde. Il y avait 1000 centenaires en 1970, on est aujourd'hui à 30 000 en France centenaires, donc ça a fait x30. Et d'ici, donc c'est des chiffres de l'INSEE, et d'ici 2050, on sera à 270 000 centenaires. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est énorme, c'est une explosion. Tant mieux, on vieillit mieux, on vit plus longtemps. Mais effectivement, je vous rejoins sur le fait de dire que les retraités vont devenir de plus en plus importants et incontournables dans la politique. D'ailleurs, on l'a vu encore hier, François Bayrou qui disait « on ne reviendra pas sur la réforme des retraites ». Pourquoi il dit ça? Parce que la logique de cette politique et de cet allongement de la durée de vie, c'est que tôt ou tard, l'âge de départ à la retraite continuera à augmenter. Et évidemment, j'espère que le modèle social continuera lui aussi qu'on vieillira toujours en bonne santé et qu'on puisse profiter de la retraite, évidemment. Et donc aujourd'hui, voilà, pour vous donner encore un autre chiffre qui va vous parler à tous, en 1950, la classe d'âge de 0 à 19 ans représentait 30% de la population. Aujourd'hui, c'est 20%. Et les plus de 65 ans, en 1950 toujours, représentaient 15%, aujourd'hui 42%. Enfin, en 2050, 42%. Donc ça veut dire que les plus de 65 ans en 2050, seront deux fois plus nombreux que les 0 à 18 ans. Donc forcément, vous ne pouvez pas... Vous êtes obligé d'adapter votre politique en fonction de cette natalité, de ce vieillissement. On a tous les boomers là, qui sont nés entre les années 40 et 60 arrivent massivement à la retraite. Et donc, il faudra prendre en compte ce vieillissement de la population, adapter aussi les infrastructures, etc. Mais la politique menée par les prochains gouvernements sera tournée évidemment vers les retraités.
On a donné beaucoup de chiffres, mais en fait, pourquoi est-ce que tout ça pose un problème? Pourquoi est-ce que c'est un problème qui est devant nous? C'est parce que ce qu'il faut dire, c'est que les retraités sont une catégorie de la population. Alors là, on est un peu large, hein, mais quand on parle des retraités, souvent on parle des retraités un peu aisés, parce que même en termes de vote, si vous prenez les retraités qui étaient d'anciens ouvriers, par exemple, ils ont un vote qui va être beaucoup plus ressembler à celui de l'ensemble de la population. Mais voilà, en fait, le problème, c'est que les retraités ont des intérêts qui sont très distincts de ceux du reste de la population.
Tendanciellement, est-ce qu'ils votent plutôt à gauche ou plutôt à droite?
Ben, ils votent plutôt au centre, au centre-droit.
Oui, mais dans
quoi.
Le centre, voilà. On sait si...
Macron, ces dernières années, massivement, massivement,
pour Emmanuel Macron. Oui, Macron brouille un petit peu les pistes, vous voyez. Mais en même temps, un petit peu brouiller les pistes. Est-ce qu'il serait aujourd'hui plus PS François Hollande, Édouard Philippe ou plus Laurent Wauquiez? Revenir un petit peu à la question politique.
C'est plus vers Laurent Wauquiez. Hein. En fait, toutes les personnes de bord politique qui défendent les retraites, de ne pas toucher aux pensions de retraite et de ne pas revenir à la réforme des retraites à 62 ans. Donc, et effectivement, aujourd'hui, c'est plus vers la droite que vers la gauche que les retraités sont défendus, en tout cas sur ces points-là.
Aussi parce qu'ils sont, les retraités, comme je disais tout à l'heure, ont un attachement particulier aux questions de l'ordre, de la sécurité. Et donc, il peut naturellement les incliner vers la droite, on va dire.
Pas facile d'innover dans ces conditions, pas facile de réformer dans ces conditions, parce que qu'est-ce qu'on peut attendre d'un système qui vise à honorer une demande qui est celle de la rente?
Et puis surtout, pour une politique qui projette le pays vers l'avenir, il faut faire une politique qui s'adresse idéalement aux jeunes, aux actifs, aux jeunes parents. On a évoqué le problème démographique, le vieillissement de la population. C'est pas seulement que la médecine s'améliore et qu'on vit plus vieux, c'est aussi qu'on fait plus d'enfants.
Donc voilà, il faut aussi une politique de natalité.
Et donc, en fait, le problème, c'est que politiquement, dans un système démocratique où vous revenez aux urnes tous les 5 ans, faire une politique pour une catégorie de la population qui ne vote pas, c'est-à-dire les jeunes, ça ne paye pas, entre guillemets. Donc aujourd'hui, il y a quand même une équation qui est vraiment difficile à résoudre, parce que c'est légitime en démocratie pour un élu de souhaiter se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire pour exercer, pousser ses idées et les mettre en application. Comment vous faites pour vous maintenir au pouvoir et en même temps faire une politique qui s'adresse à des catégories de la population qui sont l'avenir de notre pays, mais qui ne participent pas ou pas suffisamment à la vie démocratique.
Ça serait impossible d'avoir une cote supplémentaire, une décote selon l'âge, la catégorie à laquelle on appartient quand on est retraité et qu'on a moins de prise sur la vie et qu'on bénéficie plus du travail des autres, que votre vote compte moins, mais ça serait absolument considérable comme chantier.
On pourrait tout imaginer, mais il y a dans ce pays un tabou qui est quand même incroyable, parce qu'il est... c'est-à-dire, en fait, la préservation du système de retraite, c'est le sujet le mieux partagé sur la classe politique. Faut pas oublier que les Républicains, ils se sont opposés à la réforme des retraites de 2023. C'est honnêtement... idéologiquement parlant, c'est le monde à l'envers quand même. Hein. Donc, il n'y a que Édouard Philippe qui aujourd'hui pousse avec une franchise qui me semble un peu indispensable dans la direction de dire mais oui, il va falloir travailler plus et plus longtemps parce qu'on vit plus vieux, parce que sinon, en fait, on ne va pas s'en sortir. Et la droite a participé largement en 2023 à entretenir cette idée qu'en gros, c'était qu'une question de volonté politique, qu'on était obligé de rien, qu'on pouvait tous payer. Je suis surpris de voir à quel point politiquement ça reste très partagé, en fait, parce que tout le monde a peur de se mettre les retraités à dos au moment des élections.
C'était surtout la justification qui était avancée pour pouvoir faire passer la réforme des retraites qui était avancée, qui était critiquée. Le fait qu'on ait des problèmes de déficit public, etc. Surtout qu'on aurait pu financer à ce moment-là, précisément, en fait, cette justification n'était pas la bienvenue, par une réduction des dépenses publiques. Mais effectivement, l'âge de la population avance, enfin, on vieillit plus longtemps, donc tôt ou tard, oui, il y aura forcément un départ de l'âge l'âge à la retraite un peu plus tard. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que les retraites, ça coûte 300 milliards d'euros à la France dans le PIB, c'est important. Je pense qu'il faut surtout axer sur une politique de natalité forte pour pouvoir avoir une croissance et plus de personnes qui cotisent, puisque le pays va vieillir. Les retraites, le coût des retraites va augmenter, et ce serait dommage de toucher aux pensions de retraite, puisqu'on a tous travaillé, on mérite tous de partir à la retraite un jour. Donc voilà. Après, il faut prendre juste en compte, je dis, un élément important, c'est que aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes âgées qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce taux et ce pourcentage est passé de 7 à 10% en 5 ans. Donc, on voit que même en ne touchant pas aux pensions de retraite et en mettant une politique qui aide les retraités, on a quand même une population qui s'appauvrit. Donc, il faudra aussi axer sur ça pour le gouvernement.
Antoine Fenech et Gauthier Vaillant, les retraites, allez, il y a une retraite spirituelle, c'est celle qu'a entreprise Fabrice Amédéo, c'est dans les pages de La Croix aujourd'hui, l'expérience spirituelle qui a converti Fabrice Amédéo, vous savez, c'est le skipper qui a bouclé son tour du monde le 4 mars, et qui s'est converti, vous vouliez nous dire un mot là-dessus, juste en quelques secondes.
Gauthier, oui, bah, je vous remercie beaucoup de me donner l'opportunité d'en parler, c'est un très beau récit à lire donc dans La Croix aujourd'hui et sur lacroix.com. L'histoire que nous raconte ce navigateur qui vient de boucler son Vendée Globe, qui vivait une foi catholique traditionnelle très distante et qui, une nuit, seul en plein cœur de l'océan Pacifique, a vécu une expérience spirituelle hors du commun et qui en est ressorti transformé. Il a rencontré Dieu, Marie d'abord, et Dieu tout simplement. C'est vraiment une histoire exceptionnelle que je recommande à tous ceux qui nous écoutent.
Une belle histoire à lire dans La Croix, je me suis dit, et si tout ça c'était vrai? Finalement, à lire dans les pages de La Croix aujourd'hui. Merci Gauthier Vaillant et merci Antoine Fenech.
Merci beaucoup.
Et bonjour Stéphanie Gallet.
Les autres ouvrent le micro.
Stéphanie Gallet qui est avec nous ce matin. Avec, je pense, donc Jagy que vous retrouvez.
Est-ce que vous
comme
nous voyez? Est-ce
oui.
Que vous voyez là-bas, Paul?
Bonjour Stéphanie Gallet.
Tu sais quoi? Et on va parler d'éco-anxiété, de notre capacité à faire de cette hypersensibilité une force dont je pense donc j'agis.